les vols ultra long courrier font partie des annonces les plus impressionnantes qu'une compagnie aérienne puisse faire. Ce sont ces liaisons qui relient des villes extrêmement éloignées, parfois jamais connectées, en vol direct, et qui repoussent les limites de l'aviation commerciale. Ces dernières années, ce type de route a explosé, notamment grâce à l'arrivée d'appareils comme l'A350 et le 787. Des avions qui ne sont pas forcément plus performants que certains anciens modèles comme l'A340 dans sa version 500 ou le 777-200LR, mais qui sont beaucoup plus rentables à exploiter. Et c'est là que tout se joue. Parce qu'en réalité, derrière ces vols spectaculaires, se cache une autre histoire. Une histoire de coûts extrêmement élevés, de marges très faibles, et parfois, de routes qui ne tiennent tout simplement pas économiquement. Prenons un exemple concret. Air New Zealand. Depuis 2022, la compagnie opère un vol direct entre Auckland et New York JFK. Avec plus de 14 000 km, c'est la plus longue route de son histoire, et l'une des plus longues au monde. Sur le papier, c'est une vitrine parfaite. Un vol emblématique, prestigieux, qui attire l'attention. Mais aujourd'hui, cette route n'est plus rentable. Selon plusieurs sources, Air New Zealand envisage sérieusement de la supprimer. La compagnie fait face à des difficultés financières dans un contexte où les prix du pétrole ont fortement augmenté, notamment à cause des tensions géopolitiques récentes. Résultat, elle passe en revue tout son réseau, en particulier les vols les plus longs et les plus coûteux. Et cette liaison vers New York est en tête de liste. Le problème, c'est que ce vol coûte extrêmement cher à opérer. Il mobilise un Boeing Dreamliner dans sa variante 9 qui pourrait être utilisé sur des routes bien plus rentables. Et pour une compagnie comme Air New Zealand, qui dispose d'une flotte long courrier relativement limitée, chaque avion compte énormément. En clair, garder cette route a un coût d'opportunité très élevé. Tant que les résultats ne s'améliorent pas, elle ne tient que pour le prestige. Mais ce n'est pas le seul facteur. En face, il y a Qantas. En 2023, la compagnie australienne a relancé ses vols vers New York depuis Sydney après les avoir suspendus pendant la pandémie. Avant, ces vols se faisaient en Boeing 747 avec une escale à Los Angeles. Désormais, ils sont opérés en avec le même Dreamliner, et ce avec une escale à Auckland. Et sur cette route, Qantas a clairement pris l'avantage. Dès le départ, la compagnie a proposé plus de fréquences, avec 5 vols par semaine contre seulement 3 pour Air New Zealand. Mais surtout, Qantas ne transporte pas seulement des passagers entre Auckland et New York. Elle capte aussi tout le trafic entre Sydney et New York. Et ça change tout. En plus, ce type de vol avec droit de 5e liberté permet une expérience plus simple pour les passagers, sans correspondance complexe. Là où Air New Zealand dépend davantage de connexions, Qantas propose une offre plus fluide. Autre avantage majeur, les partenariats. Qantas est allié à American Airlines, qui a une présence massive à JFK. A l'inverse, le partenaire d'Air New Zealand, United Airlines, n'opère pas depuis cet aéroport. Résultat, beaucoup moins de connexions possibles et donc moins de passagers potentiels. Aujourd'hui, la différence est claire. Air New Zealand peine sur cette route, tandis que Qantas, elle, performe très bien. Tellement bien qu'elle prévoit de passer à un vol quotidien dès juin 2026. Et ça va encore compliquer les choses pour Air New Zealand. Parce que sur une route aussi longue, les coûts sont déjà très élevés. Bien plus qu'un vol vers Los Angeles, et encore plus qu'un vol classique de 7 à 8 heures. Si, en plus, la concurrence devient plus forte, avec plus de fréquences et une meilleure connectivité, il devient très difficile de rester rentable. Même si Qantas et Air New Zealand utilisent toutes les deux le Boeing 787 dans sa variante 9 sur cette route, dans les faits, ce ne sont clairement pas les mêmes avions. D'après les données, Air New Zealand exploite 3 configurations différentes sur ses Dreamliners. Certaines versions comptent 272 sièges avec 26 en classe affaires, d'autres 275 sièges avec 27 en classe affaires, et une version encore plus dense monte à 302 sièges, mais avec seulement 18 sièges en classe affaires. En face, Qantas a fait un choix beaucoup plus simple, et surtout beaucoup plus stratégique. La compagnie utilise une configuration unique sur ses 787-9 avec 236 sièges au total, dont 42 en classe affaires. Et ça change absolument tout. Sur des routes aussi longues, la rentabilité ne repose pas seulement sur le nombre de passagers, mais surtout sur leur valeur. Les cabines premium, classe affaires et premium économie génèrent des marges bien plus élevées. Et sur ce point, Qantas a une longueur d'avance. A l'inverse, les configurations d'Air New Zealand apparaissent trop denses, trop orientées vers la classe économique pour une route de cette distance. Et c'est d'autant plus problématique que New York est un marché historiquement dominé par les voyageurs d'affaires. Résultat, le potentiel de revenus est limité. Et dans certains cas, ces configurations plus denses obligent même la compagnie à restreindre le nombre de sièges disponibles ou à laisser du fret au sol, ce qui pénalise encore davantage la rentabilité. Même avec un avion aussi performant que le Boeing 787, cela ne suffit pas. Sur ce type de liaison, la performance commerciale dépend avant tout de la stratégie. Deux indicateurs sont essentiels, le taux de remplissage et le revenu moyen par passager. Et sur ces deux points, Air New Zealand est en difficulté face à Qantas. Sa fréquence de vol est plus faible, et surtout, sa configuration cabine limite sa capacité à capter les passagers les plus rentables. Alors oui, la compagnie peut tenter de maintenir cette route pour rester présente sur le marché. Mais entre la Nouvelle-Zélande et New York, la demande reste relativement limitée. Et avec des coûts d'exploitation aussi élevés, l'équation devient difficile à tenir. D'ailleurs, les difficultés d'Air New Zealand ne se limitent pas à cette seule route. La compagnie a enregistré une perte avant impôt de 59 millions de dollars sur le premier semestre 2026 et pourrait dépasser les 300 millions de pertes sur l'ensemble de l'année. À ce stade, même un retour à la rentabilité en 2027 reste incertain. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. La demande domestique est en recul, le dollar néo-zélandais s'affaiblit et la hausse récente des prix du carburant, notamment liées aux tensions autour de l'Iran, pèsent lourdement sur les coûts. À cela s'ajoutent des problèmes techniques. Air New Zealand a été affectée par les difficultés des moteurs Rolls-Royce Trent sur ses 787, mais aussi par celles des Pratt et Whitney sur ses Airbus A320neo. Côté long courrier, la compagnie a retiré 8 Boeing 777 dans la version 200ER pendant la pandémie du Covid, réduisant fortement sa capacité. Elle a bien récupéré quelques 777 dans leur version 300ER d'occasion, et dispose encore de 10 787 en commande, cette fois équipés de moteurs General Electric GEnx. Mais malgré cela, elle n'a toujours pas retrouvé son niveau de capacité d'avant-crise. Pendant ce temps, la concurrence s'intensifie. Les compagnies américaines ont fortement augmenté leur capacité vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande ces dernières années. Et dans la région, Qantas va encore plus loin, en proposant des cabines premium jusque sur certains avions monocouloirs, là où Air New Zealand reste sur des configurations entièrement économiques. Résultat, la pression s'exerce sur l'ensemble du réseau. Cela dit, tout n'est pas forcément négatif pour l'avenir. Les nouveaux Dreamliner 9 qu'Air New Zealand doit recevoir, équipés de moteurs General Electric, ne devraient pas rencontrer les mêmes problèmes de fiabilité. Et surtout, ils proposeront une configuration beaucoup plus orientée vers le premium, avec 42 sièges en classe affaires. Un changement qui pourrait, à lui seul, rebattre les cartes. Aujourd'hui, la route entre Auckland et New York est donc bien plus qu'une simple liaison ultra long courrier. C'est une confrontation directe entre deux stratégies. C'est d'ailleurs l'une des rares routes au monde, classée parmi les 30 plus longs vols sans escale, à être exploitée par deux compagnies concurrentes. Un cas similaire existe entre San Francisco et Singapour, où United Airlines et Singapore Airlines, pourtant membres de la même alliance Star Alliance, opèrent toutes les deux la liaison, avec des relations parfois tendues. En réalité, les compagnies aériennes sont déjà en concurrence indirecte en permanence. La majorité des grands transporteurs s'appuient sur des réseaux de correspondance pour acheminer leurs passagers. Mais sur les vols ultra long courrier, la logique est différente. Ces routes reposent en grande partie sur une clientèle affaires, prête à payer plus cher pour éviter une escale et gagner du temps. Le problème, c'est que ces liaisons coûtent extrêmement cher à exploiter, alors que la demande locale entre deux villes aussi éloignées reste souvent limitée. Résultat, dans la plupart des cas, il n'y a de place que pour une seule compagnie sur ce type de marché. C'est aussi pour cette raison que les vols ultra long courrier lancés ces dernières années ont tendance à perdurer. Les compagnies qui s'y positionnent ciblent directement les passagers premium, s'appuient sur des avions très économes en carburant, et évitent autant que possible la concurrence frontale. Compte tenu des coûts en jeu, très peu d'acteurs sont prêts à expérimenter sur ce terrain, et c'est précisément ce qui rend le cas d'Air New Zealand et de sa liaison vers New York aussi particulier. La vraie question désormais, c'est de savoir si la compagnie va continuer à se battre sur cette route, notamment avec l'arrivée de ses futurs Boeing 787-9 équipés de moteurs General Electric et d'une cabine plus orientée vers le premium, ou si elle finira par se retirer, laissant à Qantas le champ libre pour relier New York à la Nouvelle-Zélande. Alors, selon vous, les vols ultra long courrier représentent-ils vraiment l'avenir du transport aérien? Ou leurs coûts cachés risquent-ils de les rendre difficiles à justifier sur le long terme? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner.